Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 25e de la saison déjà. 25, on salue les auditeurs du département du Doubs, comme vous tous par ailleurs, qui êtes toujours très nombreux à nous écouter de 18h30 à 20h. Émission, vous le savez, 100% interactive, filmée sur RTL.fr ou la toute nouvelle application qui réunit notamment tous les podcasts de RTL. Et puis à 20h, RTL Foot, avec notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Lens-Rennes. On aura l'occasion d'y revenir, évidemment. Match de 17h, Lorient à Reims. Le score est actuellement d'un but à zéro pour le FC Lorient. Match supplémentaire dès 19h, ce sera Lyon-Strasbourg. On suivra ça de très près également. Avec moi ce soir, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
David Aiello pour On refait le match. Bonsoir David.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et Gilles Verdez, le procureur du football français. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
À la réalisation, Damien Béchiot. Bonsoir Damien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Et vous tous, bien sûr, qui nous écoutez avec vos messages sur le compte Twitter, @RTLFoot. Message relayé par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Salut tout le monde.
Au menu, jusqu'à 19h. Le groupe Canal a-t-il ou va-t-il sauver le football français? Et il y a une petite nuance, ce n'est pas pareil.
Une grosse nuance.
À 19h, ou à partir de 19h, à la veille d'OM Paris Saint-Germain, est-il encore possible de parler football? Et on parlera football, mais on parlera du reste également. 19h30, a-t-on encore le droit de critiquer Zinedine Zidane? Très énervé hier en conférence de presse. A-t-on encore le droit de critiquer Zinedine Zidane? Et puis à 19h45, vous le savez, les fameux tirs au but avec sa non moins fameuse question Ligue 2. Un championnat injustement sous-estimé. J'espère que vous avez préparé évidemment toute cette actualité. Et je me tourne notamment vers Sébastien Tarago.
Évidemment, on parle de Clermont ou pas?
Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Et on attaque directement dans le dur, bien évidemment. Lorient-Reims, actuellement, je vous l'ai dit, un but à zéro pour Lorient. 74 minutes de jeu. On va suivre tout cela, le dernier quart d'heure et le temps additionnel. Ligue 2, on en parlait il y a un instant. 3-Toulouse, le match au sommet. Un but partout entre les deux équipes. Et Le Havre a battu le Paris Football Club sur le score d'un but à zéro. Je vous rappelle le programme également. 19h, Lyon-Strasbourg à suivre en compagnie de Sébastien Mallaire. Messieurs, c'est une actualité qui nous occupe, préoccupe depuis pas mal de jours déjà. Elle a pris fin, ou presque, en tout cas médiatiquement, avec la mise au point de Maxime Saada, président du groupe Canal+. C'était sur RTL, chez Alba Ventura, vendredi à 7h40. Cette question, jusqu'à 19h, le groupe Canal a-t-il ou va-t-il sauver le football français? Alors, a-t-il sauvé le football français jusqu'à la fin de la saison? C'est une question, j'attends vos réponses. Ou va-t-il sauver le football français, car il y aura désormais un nouvel appel d'offres pour les trois saisons à venir? J'attends également vos réponses. A-t-il sauvé déjà le football français? Qui veut s'y mettre? Philippe Sanfourche.
A-t-il, dans un premier temps, vu l'urgence dans laquelle était le football français, oui. Parce qu'on rappelle quand même brièvement la situation. Canal avait expliqué que dans la situation de blocage, ils souhaitaient se séparer de leur fameux lot 3, pour lequel ils reversent plus de 330 millions d'euros à Bein en sous-traitance. Et il y avait tout simplement un déversement qui arrivait là, le 5 février. Donc si on avait une situation de blocage, il n'y avait pas ce versement-là. Et s'il n'y a pas ce versement-là, c'est aussi le prêt qu'a contracté la Ligue au mois d'octobre dernier qui se retrouvait en perdition. Donc là, on était dans une situation où il n'y avait plus de rentrée d'argent du tout, plus de cash. En fait, c'était très simple, c'était une question de cash. Les clubs avaient besoin de cash, ils n'ont pas du cash maintenant. On est vers des situations de ne plus pouvoir payer tout simplement le personnel à l'instant T. Donc alors, oui, dans un court moment, de manière très pragmatique, oui, à ce moment-là, oui.
Pour nos auditeurs, le lot 3 correspond à deux belles affiches du championnat, le match du samedi à 21h et le match du dimanche à 17h. Et la somme, effectivement, que le groupe Canal a versée vendredi, c'est une échéance. 65 millions d'euros, approximativement. Alors, messieurs, Canal a-t-il sauvé ou va-t-il sauver le football français? D'abord, a-t-il sauvé le football français?
Oui.
Gilles Verdez. En rappelant, Gilles, que vous travaillez également.
Absolument.
Pour une chaîne appartenant au groupe Canal.
Tout à fait. Il faut le préciser, bien entendu. Évidemment que Canal a sauvé, et Canal a sauvé une armée de médiocres. une Armène médiocre, c'est-à-dire la Ligue. Alors là, on dit Vincent Labrune exceptionnel, etc. Si vous voulez, il a un peu d'entre-gens. Faut pas non plus le surestimer. Hein. Média Pro, la coquille vide. Bein ne remet plus d'argent. Les nouveaux entrants potentiels, c'est totalement bidon. Amazon, etc. C'est rien, c'est des ersatz, rien. Donc il y a rien, dans le désert. Dans le désert.
Ils pèsent pas du tout 6 milliards d'euros.
Ouais, c'est ça. C'est non, mais, oui, mais qu'est-ce qu'ils proposent au football français avec leurs 6 milliards d'euros?
D'accord, c'était pour plus tard, on est d'accord.
Rien.
On est d'accord.
Donc là, s'il n'y avait pas Canal, la Ligue 1 était morte. Donc oui, Canal a sauvé le foot français.
Bah. À sauver.
David Ayello.
Je suis même pas sûr qu'on puisse aller jusque-là. Je comprends évidemment ce que vous dites dans vu l'urgence de la situation, mais compte tenu de la crise sanitaire qu'il faut ajouter à la crise des droits télé, je suis même pas sûr que ce qui a été rajouté par Canal là va permettre au club, en tout cas, de peut-être que ça va leur permettre effectivement d'éviter la cessation de paiement, mais je pense que la situation reste dramatique et que le premier poste de dépense qui reste les salaires va devoir connaître une coupe certaine, parce que je vois pas comment le football français, vu ce qui était budgété, on rappelle qu'il y a eu, en l'état actuel, on a eu affaire à une baisse de moins 45% des droits télé. 550 millions de pertes pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Cette somme-là, ils vont pas la revoir et on ajoute la perte.
Ils l'avaient jamais vue.
Ils l'ont jamais vu. De toute façon,
c'était en fait c'était une vue de l'esprit. C'était quelque chose qui avait été promis, qui n'a jamais été.
Voilà, les clubs ont budgété sur un mirage.
C'est là où je voulais venir.
On poursuit ce premier tour de table avec Sébastien Tarago.
Non, mais je comprends tout ce qui est dit et c'est parfait. Mais c'est la question qui me gêne, c'est-à-dire que Canal+ a-t-il sauvé le football français? On a l'impression que la chaîne cryptée, le groupe Vivendi serait effectivement donc le sauveur du football français.
Ah, c'est la question. Hein.
Non, Canal+, c'est juste, et Maxime Saada, pour le coup, sont des génies qui ont récupéré pour 35 millions, donc des centimes, hein, pardonnez-moi, à cette échelle, toute la fin de la Ligue 1.
Alors, faut bien expliquer, ouais, pour les auditeurs. Sébastien,
allez-y.
C'est 330 millions.
330,
voilà.
Ouais.
Et donc là, il y a que le Canal+ va régler, hein, avec même une avance de 200 millions pour les prochains jours, oui. Avec, vous parlez des 35 millions, un bonus de 35 millions.
Ils se sont régalés dans cette affaire. Ils se retrouvent à récupérer tous les droits, l'ensemble des droits, et en plus une campagne de communication extraordinaire pour 35 millions d'euros. C'est la preuve. Vous faites une question, Canal+ a-t-il sauvé le football français?
Je pense que la question est factuelle.
Mais vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je constate juste que ce sont des génies et que la Ligue de football professionnel et son président Vincent Labrune sont les valets de Canal+ aujourd'hui. C'est tout. Donc, il y a un gagnant, un seul gagnant, c'est Canal+.
Mais s'il n'y avait pas Canal, la question est pertinente, parce que s'il n'y avait
pas Canal,
il n'y avait plus de football français, et ces présidents de clubs là, tous ces présidents de clubs qui ont voté Média Pro, qui ont cru à ce miroir aux alouettes, ce mirage absolu, mais qu'ils n'aient pas la dignité de s'effacer, de démissionner, alors qu'eux ont failli causer la ruine du football français. Mais je trouve ça insensé. Ces gens-là qui nous disaient Média Pro 1,3 milliard, mais le football français il n'a jamais valu ça, et eux ont failli le précipiter.
Certains sont propriétaires de club, ils vont pas se virer non plus.
Bah non, mais c'est pas raisonnable qu'il reste à Perron.
Je comprends ce que dit Gilles, mais je trouve juste que c'est un tout petit peu léger sur le fond, parce que pour 35 millions d'euros.
Vous me blessez là.
Non, c'est pour ça que j'ai essayé de faire attention, Gilles, mais vous avez pris de l'avance pour blesser.
Il aurait fallu écouter les émissions précédentes.
Pour 35 millions d'euros, je pense que vous trouviez des gens capables de mettre cette somme-là pour avoir tout ce que Canal+ a récupéré. Enfin, parce que encore une fois,
c'est 35
millions. Non,
Sébastien.
Ce contrat a été signé au préalable.
Canal n'aurait pas mis 35.
Vous partez du principe.
Ils n'auraient pas mis 35 s'il n'y avait pas les 330 avant, la Ligue n'aurait pas accepté.
Vous partez du principe que la justice aurait donné raison à Canal+. Moi, je n'en sais rien. Je pense que Canal+ aurait dû payer cette somme, parce que Canal+, ce n'est pas Média Pro. Canal+, c'est aussi une question d'image. Canal+ ne pouvait pas se permettre d'arrêter de payer ce qu'il devait, parce que Canal+, c'est énorme. Ce n'est pas que le football. Donc, il y a vraiment une question d'image. Canal+ aurait payé. En tout cas, il y a eu un coup de bluff. Canal+, encore une fois. des génies.
Mais alors, des génies, juste pour terminer, pour moi, le génie de Canal, il ne se situe pas maintenant, parce que maintenant, ils avaient le jeu en main. Le coup de génie de Canal, il a été de ne pas surmiser en 2018 quand Mediapro a acheté les droits pour 800 millions pour sa
mais
partie.
Récupéré pour 35 millions d'euros mais toute la fin de la Ligue 1.
Il y a aussi une question de temporalité sur les paiements. C'est-à-dire que c'est aussi parce que Canal dit voilà, c'est 200 tout de suite. Il y a la situation d'urgence.
Bien sûr.
En fait, c'est remettre la perfusion pour que le malade ne meure pas. C'est tout simplement. C'est ça qui l'autre l'aurait fait, de mettre 200 millions tout de suite.
Et c'est pour ça que c'est pas inintéressant de prolonger la discussion par rapport à une remarque de Gilles au préalable sur Vincent Labrune, parce que moi j'entends depuis trois jours que Vincent Labrune est un génie justement.
Je dis juste que
ce monsieur a beaucoup de relais dans les médias, parce que c'est pas possible de considérer cela. Vincent Labrune, encore une fois, il s'en est sorti d'une manière un petit
tous
peu
tous les économistes du sport, les spécialistes des droits télé qui ont été contactés diront tous que de lancer un appel d'offres dans l'urgence, comme ça a été fait, dans la situation dans laquelle se trouvait l'ensemble des acteurs et dans le flou juridique dans lequel on se trouve aujourd'hui, est absolument. On est à deux doigts de l'amateurisme.
Ah voilà.
Oui, peut-être.
Premièrement, je réponds à Philippe. On peut pas dire en préambule, le football français est à l'agonie. Il est à deux doigts de mourir et en même temps s'étonner que la Ligue ait lancé un appel d'offres en urgence pour répondre à cette urgence-là de la situation
mais
financière des clubs.
Il y avait d'autres solutions. C'est pas pour ça que tu romps la discussion.
Je vais vous dire, au niveau de l'appel d'offres, il était injouable. Sur RTL, on le disait depuis le 21 janvier dernier. Regardez les comptes Twitter RTL, il était absolument injouable. Hors de portée pour n'importe quel partenaire. Ce qui veut dire que, sachant que c'était injouable. Ensuite, on allait vers une discussion de gré à gré, car les potentiels intéressés se couvraient juridiquement. Et Canal s'est couvert juridiquement pour aller ensuite d'une discussion de gré à gré. Deuxième information, ça c'est une information qu'on donnait le 21 janvier. Je vous donne une deuxième information que j'ai essayé de recouper avec plusieurs sources. Et malheureusement, je n'ai pas des sources aussi nombreuses que j'aurais voulu en avoir pour vous donner cette information. Le prix de réserve. Vous le connaissez, le prix de réserve
qui a été sorti jusqu'à présent. Si vous le donnez, c'est une exclue.
Eh bien, c'est de l'ordre de 250 millions d'euros.
Pour la fin de saison.
Pour la fin de saison.
C'est bien, ils ont eu 35. Bravo, un génie.
Mais
bravo Vincent Labrune.
Les hommages rendus, hommages délirants à Vincent Labrune après l'accord, témoignent de
la panique.
Voilà, et quand vous rendez tellement hommage à quelqu'un après un accord, c'est qu'il est en telle situation de faiblesse que vous voulez pas le piétiner.
Moi, je suis pas d'accord
avec
ça.
Formidable, Vincent Labrune. Sous-entendu, merci Vincent, tu nous as tellement remporté.
Évidemment,
t'as été génial.
Et la communication de Jean-Michel Aulas, c'était génial.
Mais bien sûr,
il cite Vincent Labrune 18 fois dans son interview.
L'appel d'offres, il était forcément voué à l'échec, vous l'avez dit. Donc à partir de là, Vincent Labrune, piégé totalement, parce que n'ayant pas su dire au président de club qui voulait dans l'urgence faire l'appel d'offres, n'ayant aucun pouvoir pour résister, il cède, il se couche, appel d'offres refusé, et à ce moment-là, on sauve ce qu'il y a.
Et en plus,
Canal s'est régalé face à de tels amateurs.
Je suis pas d'accord avec cette lecture, alors je vais m'en expliquer. Déjà, je pense qu'il faut avoir un réel talent politique pour manœuvrer au sein de la Ligue aujourd'hui. Il y a quand même, on l'a vu, et d'ailleurs c'est ce qui a plombé le football français, tous ces présidents qui avancent leur pion en regardant juste devant le pas de leur porte et en
jouant pour... Parce que là, c'est la panique à l'Académie.
Plus maintenant, mais... Entre ceux qui sont divisés, si tu prends les gros clubs qui jouent chacun leur jeu, la Ligue 2 et le ventre mou du championnat, ça fait déjà trois familles différentes. Donc déjà, ils ne jouent pas tous la même partition.
Il faut rappeler aux gens, elle vaut zéro aujourd'hui.
Voilà. Donc déjà, tu as quand même ce conflit au sein même de la Ligue. Mm-hmm. Ensuite, tu as, quand il hérite lui de la situation, on ne va quand même pas lui charger là-dessus, c'est pas lui qui est responsable de ce qui s'est passé avant.
Il était dans les parages quand même.
Il est dans les parages, mais tu ne vas pas
ne vous le
charger.
Pas pour
mais
lui.
Seb, tu ne vas quand même pas le charger de ce qui s'est passé.
Je ne le charge pas du tout. Moi, je suis juste choqué qu'on l'appelle Mister Fixit.
Je t'explique, je trouve qu'il hérite d'une situation catastrophique. Il s'en sort avec 680 millions d'euros. Et là, je rejoins Gilles, ce qui est pour moi, à mon sens, pas très loin du prix réel quand on prend le marché français de la Ligue 1. Donc, en ce sens, effectivement, je trouve que dans le laps de temps qui lui était imparti, vu la situation catastrophique dont il a été, je trouve que ce qu'il a fait est assez miraculeux.
Alors 680 millions d'euros, c'est un peu plus, je pense, ouais. Mais quand on enlève...
Ah, moi, j'ai fait le calcul sur la
somme naturelle. 760.
Moi, je fais un compte à 760. Ouais.
Je vois pas comment vous arrivez là, parce que j'ai fait trois fois le calcul.
Mais les droits à l'étranger aussi.
Mais si vous comptez les droits à l'étranger, si vous comptez les droits domestiques...
Mais c'est l'argent qui rentre dans les caisses.
D'accord, mais là, on compare avec les droits domestiques.
550 millions d'euros à l'arrivée,
oui.
Car vous oubliez toutes les taxes.
Oui, mais
la
ça,
taxe
bon.
Pour le
ah
foot
mais ça existait avant.
Non, mais ça, à l'arrivée...
Ça, pour le coup,
c'est important de donner les vrais chiffres. 550 millions d'euros à l'arrivée. Et ça veut dire donc...
Et les deux emprunts, Christian.
Et les deux emprunts. C'est-à-dire que les 200 millions dont on parle, là, qui sont en avance pour tenter de sortir la tête hors de l'eau, ils sont déjà partis dans les emprunts qu'il faut rembourser.
C'est pas pour les donner aux clubs.
Alors, les clubs ne sont pas encore à l'abri d'une...
Mais ça, c'est pas la faute de Vincent Maroune non plus, quand même.
Et où maintenant, ou à la fin de la saison.
C'est la raison pour laquelle il va y avoir maintenant de nouveaux leviers de négociation, en ressortant justement toutes ces taxes, en démontrant une nouvelle fois que le football français n'est pas traité de la même manière par rapport à ses petits camarades, ses voisins européens, pour revenir aussi à d'autres modes éventuellement de versement de salaire, le retour du droit à l'image. C'est quelque chose qui se murmure en ce moment dans les couloirs des ministères, d'une remise à plat de ce dossier du droit à l'image, parce que mathématiquement, les clubs ne vont pas y arriver autrement.
Gilles Verdez.
Dans les taxes, il y a les deux emprunts qui pèsent et il y a deux taxes globalement, la taxe Buffet et l'aide au sport amateur. Et j'ai regardé dans les archives la taxe Buffet que certains disent aujourd'hui vouloir supprimer parce que on aide le Centre national pour le développement du sport.
Alors Vincent Labrune, la semaine prochaine en tous les cas, va tenter d'essayer de négocier, d'ajourner, de supprimer. Il n'y arrivera pas cette taxe Buffet.
Voilà. Alors quand on regarde l'histoire de cette taxe. En 2013, la Cour des comptes disait « Il faut consolider la taxe Buffet, c'est pas assez ». Tout le monde trouve que c'est pas assez. Il n'y a pas assez d'argent reversé au foot amateur, il n'y a pas assez d'argent reversé par la taxe Buffet au développement du sport. Donc il faut taxer plus, qu'on n'allège pas le foot professionnel, vit par le foot amateur et par les amateurs de foot, qu'ils ne s'avisent pas de vouloir payer moins. Parce qu'alors là... Ça soulèverait de vrais problèmes d'égoïsme.
18h46, on refait le match avant de tourner une page de publicité. Derrière la publicité, après avoir tenté de répondre, Canal a-t-il sauvé le football français ? On essaiera de répondre à la question, Canal va-t-il sauver le football français ? Car il va y avoir aussi, normalement, un nouvel appel d'offres qui devrait être exposé assez rapidement, en juin peut-être, même si Canal, d'ailleurs, le souhaite le plus vite possible. Les messages, vos réseaux sociaux et sur le compte @RTLFoot en compagnie de Baptiste Durieux. Baptiste.
Beaucoup de messages évidemment. Message de Tristan qui nous dit il faut nuancer, Canal+ a sauvé le football français parce que eux seuls avaient les moyens de le faire et parce que surtout cela servait leur intérêt. Mais d'un côté, tant mieux pour eux, ils n'ont quand même rien demandé à la base. Message de Yohan, la bêtise de tous, club et ligue confondue, amène au même constat. Canal+ obtient son statut de super-héros pour 35 millions d'euros avec les acteurs du foot à sa merci. Message d'Aurélien qui pose cette question. Et si c'était pas Vincent Labrune qui avait sauvé notre football, c'est quand même lui qui a réconcilié Canal avec la ligue et qui a trouvé une solution dans l'urgence. Et message assez drôle de Sébastien, enseignement de cette crise, si je dois renégocier le prêt de mon appartement, je demande à Maxime Saada.
C'est un message que j'ai déjà vu effectivement. Alors je rappelle l'information de tout à l'heure qui n'a pas été confirmée par plusieurs sources, mais de sources fiables et à deux ou trois reprises suite au coup de fil passé, 250 millions d'euros le prix de réserve. Je trouve que c'est plutôt faible, mais bon, c'est pas ce que vous en pensez. 18h45. Pardon ?
Ils ont eu 35.
Ouais. Et ça n'aboutirait pas que tout était négociable et que même si ça avait été en dessous du prix de réserve, il y avait la possibilité de continuer à discuter par la suite. Donc en fait, c'était l'aveu d'un échec annoncé, cet appel d'offres.
Le groupe Canal va-t-il désormais sauver le football français après la publicité ? On fait le match alors que dans le temps additionnel, Lorient continue de mener face au Stade de Reims par 1-0. A tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match en compagnie de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarago, Gilles Verdez, David Aiello. Le temps additionnel, Lorient-Reims. Le premier match de la journée, Lorient mène face à Reims par 1-0. Il reste environ 2 minutes dans le temps additionnel. À 19h, Lyon-Strasbourg. Le reste du programme avec notamment le grand format de ce soir. C'est Lens-Rennes à partir de 21h. Et la suite évidemment du programme demain dimanche et notamment à 21h, Marseille-Paris-Saint-Germain. Saint-Germain. Nous en parlerons après 19h. En Ligue 2, je vous rappelle les deux résultats de l'après-midi. 3 Toulouse, 1 but partout. Et Le Havre, Paris FC, 1 but à 0. On en parlait pendant la publicité. C'est vrai que ce programme morcelé de Ligue 1 avec un match à 17h, ça on le savait. Un autre match à 19h, puis tout le reste, nous déstabilise un peu. Alors si Lyon joue à 19h face à Strasbourg, c'est parce que Lyon doit jouer en Coupe de France dès mardi prochain, j'imagine. Voilà.
Même nous, autour de la table, on n'arrive pas à savoir précisément pourquoi tout ça se fait et comment. Imaginez pour l'amateur de football. Et ça fait aussi partie de la démonstration d'une Ligue 1 dégradée. D'une Ligue 1 dégradée, encore une fois, je ne me fais pas le représentant de Canal+, mais oui, il n'y a plus de public, on ne sait plus où c'est, à quelle heure, tout ça fait en sorte que la Ligue 1 vaut moins cher aujourd'hui.
Mais c'est la course à l'argent, pardonnez-moi.
Non, ça, on est d'accord.
Et ça a été fait ailleurs aussi, mais le match du dimanche à 13h, c'est pour le public chinois, nombreux, qui attendent avec impatience le prochain match de Nice.
Et Brest-Bordeaux demain.
Ah bah, ils attendent avec impatience Brest-Bordeaux. Il va y avoir des audiences folles en Chine. Et beaucoup de sponsoring. Franchement, ça, mais j'espère que tout ça va remettre à plat le football. J'ai du mal à y croire, mais j'espère quand même. Et qu'on arrête avec cette folie. C'est une folie.
Après, pour répondre à votre question sur va-t-il.
Alors voilà, c'est la question maintenant. Oui. Le futur, va-t-il.
Alors encore une fois, je rappelle,
49% de ressources en moins pour les clubs de Ligue 1, 41% de ressources en moins pour les clubs de Ligue 2, des prêts à gogo qu'il va falloir rembourser, des joueurs qu'il faut continuer de payer. Est-ce que Canal va sauver maintenant le football français, car il va y avoir un nouvel appel d'offres.
Alors c'est sûr que Canal sera candidat à redevenir le partenaire qui était historique de l'avenir, donc à la globalité de la Ligue 1, ça c'est sûr. Après, la question que va se poser de nouveau la
globalité,
Ligue,
c'est sûr.
Et c'est sûr. Et certains. Mais quitte après.
À sous-licencier, oui.
Ah, absolument, okay. Absolument. Ça c'est voilà. La sous-licence, à mon avis, ce serait une stratégie de Canal.
Canal n'a pas vocation à diffuser.
Non, pas l'ensemble. Je suis entièrement d'accord avec ça. Canal aura une affiche. Des affiches premium et possiblement sous-licenciera.
Mais ça dépend quel est le prix, Gilles. Prix est le même que celui que Canal avait payé il y a 4 ans, et là on y est avec la dernière partie de saison, donc il n'y a pas une dépense folle, il n'y a pas une dépense en tous les cas supplémentaire, et il y a une offre supplémentaire. Pourquoi Canal se priverait ?
Ils ont proposé un peu moins quand même. Dans les propositions que Canal avait faites, c'était un peu moins que les 760 millions.
Amazon, les Anglais,
alors,
les autres,
voilà, ça c'est la question. Et par rapport à ce que disait Philippe sur les puissances financières potentielles d'Amazon. Soit la Ligue reste avec son partenaire historique, redevenu partenaire Canal, soit elle tente une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, c'est Amazon.
Si Amazon veut bien,
Oui, parce que ça va refaire un média pro.
Amazon n'a pas investi plus de 100 millions d'euros sur les droits télé sur le continent européen.
Bien sûr, c'est
Amazon 100 millions, se lance. Donc là, on est très très loin des sommes évoquées.
Bon, messieurs, mettez-vous à la place des auditeurs qui aiment le football, qui écoutent la plupart du temps RTL, qui lisent Le Parisien, qui lisent l'équipe, qui veulent regarder également du football à la télé. Là, pour l'instant, ils ont une solution simplifiée, c'est de s'abonner à Canal. Et ça coûte, le pack sport doit coûter aux environs de 20-25 euros, et uniquement Canal.
La situation telle qu'elle est là jusqu'à la fin de saison, elle est formidable pour le téléspectateur, en tout cas à mes yeux. Tu achètes un abonnement à Canal+, vous avez donné la somme.
C'est lisible.
C'est lisible, c'est clair. Si vous voulez voir jouer Rennes, vous pouvez voir jouer Rennes. Si vous voulez voir jouer l'Olympique de Marseille, vous pouvez voir l'Olympique de Marseille. Enfin, c'est à mon avis, bien sûr que c'est de l'argent, évidemment. Mais c'est quand même, à mon avis, accessible pour une offre aussi complète, sachant qu'il y a aussi le championnat anglais, il y a aussi le rugby.
La Formule 1,
le téléspectateur, c'est formidable. Et pour le football français, à mon avis, qui est dans une telle panade, ça peut être aussi une issue, parce que arrêtons d'aller chercher toujours plus, toujours plus, toujours plus, essayons de faire mieux.
Mais pour aller dans ce sens, puisqu'on parlait de la Formule 1, souvenez-vous, au moment de la remise sur le marché des droits de la Formule 1, il y avait des offres, alors j'aurais pas le détail à vous donner ici, mais il y avait des offres en face de Canal qui étaient supérieures. Et la Fédération Internationale Automobile a décidé de continuer de travailler avec Canal+, un peu comme ça se faisait précédemment pour le football, pour privilégier justement ce partenariat. Ils étaient très satisfaits de la façon...
L'exposition aussi.
De l'exposition, de la manière dont avait été dépoussiéré le produit. Et on le voit aujourd'hui, quand on voit les audiences, il y a encore quelques années, on disait c'est fini, la Formule 1, c'est un truc cramé, c'est des moteurs qui font du bruit, qui polluent. Etc. Et aujourd'hui, ça n'a jamais aussi bien marché. Même en France, alors
Alors que, bon, ok, on a, non, quelques,
on a quelques pilotes français
qui émergent, mais enfin, ils se battent pas pour être champion du monde. Donc, ça prouve que c'est le produit global qui fonctionne. Et ça doit donner des idées sur la manière de redonner son lustre à la Ligue 1.
Et je rappelle en termes de sous-licence, d'ailleurs, parce que là, Canal a toute l'offre Ligue 1, que la sous-licence Ligue 2 devrait être de revenir à Bein, qui a déjà deux matchs, samedi après-midi, lundi soir, et l'ensemble du multiplex Ligue 2 reviendra à Bein.
On sent tisser ce partenariat Canal-Bein. Voilà, globalement, les deux acteurs, avec l'un achète et possiblement l'autre sous licencie, mais c'est un peu ça, il n'y aura pas de guerre entre les deux. On sent un partenariat plus que jamais solide, là.
Et puis, il y a aussi la façon de redimensionner le championnat de France. D'ailleurs, Maxime Saada ne l'a pas dit aussi précisément. Maxime Saada est un diffuseur, il ne va pas faire la compétition. Mais un championnat de France à 18 clubs, il aimerait bien.
Voire
à 16. Alors que le top 14 de rugby voudrait repasser à 16. Je vous le dis au passage quand même.
Oui, mais justement, ça c'est une illusion à mon avis. Que Maxime Saada, encore une fois, le patron, il ferait mieux de prendre son petit siège et son rond de serviette à la Ligue, hein, ce serait plus rapide, mais c'est une illusion pour moi, le passage à 18, le passage à 16. On essaye de m'expliquer que d'un coup ça va régler tous les problèmes du football français, mais alors
en Espagne
ils sont combien? Dites-moi.
Ils sont 20, mais.
En Angleterre, ils sont combien?
Sébastien.
Il y a un championnat majeur qui est à 18, c'est l'Allemagne.
Oui.
Ok, ça marche bien, pas de souci. Mais vous pensez que c'est parce qu'ils sont à 18 que tout va bien?
Non, mais justement,
c'est des réflexions à la petite semaine.
La comparaison que tu fais, à mon avis, elle n'a pas de sens parce que ce sont des marchés complètement différents. Non, mais je t'explique pourquoi.
Il y a 10 ans, le championnat espagnol était à la rue.
Je te dis, je pense que ces marchés-là, en termes de potentiel, n'ont rien à voir avec la France. Et ça, je pense que c'est l'erreur initiale, originelle du football français. C'est d'avoir cru que la Ligue 1, fondamentalement, pourrait se hisser au niveau du marché allemand, anglais, espagnol,
donc
italien.
Donc le vrai prix, c'est 760 millions d'euros avec Neymar.
En tout cas, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le prix qu'est prêt à mettre un consommateur français, je pense que c'est pas le même, qu'il n'y a pas la même passion, qu'il n'y a pas le même budget, qu'il n'y a pas
18,
le même volume.
Dis-moi pourquoi
j'ai dit tout ça. Non, mais juste, Sébastien, je termine. Effectivement, là où je te rejoins, c'est que c'est pas la panacée, ça permettra pas, ça fera pas de miracle. Mais j'en reviens donc du coup également à la question sur est-ce que Canal va sauver le football français. Le football français s'est surdimensionné en se voyant beau avec ce prix de 1,2
milliard. Expliquez-moi pourquoi 18, je voudrais comprendre.
Non, mais je te dis juste que pour moi, c'est un élément parmi d'autres.
Parce qu'à la fin du 20e siècle, je vous rappelle que pendant plusieurs années, la Ligue 1 était à 18.
Ouais, 4-5 ans, donc t'as pas trop le temps de voir la portée de la
Ligue 1. Gilles Verlaise va intervenir.
Pourquoi 18 ou pourquoi 16 de la part d'un diffuseur?
Parce que... Ah non, ça je comprends.
Un diffuseur,
et
qui fait la loi? Vous avez la réponse.
On est d'accord.
Qui fait la loi?
Mais
c'est le diffuseur qui va faire la loi.
Du football français.
Bah, ça pose un problème, c'est de resserrer l'élite.
Pardon, donc ça pose un problème de voir qu'un diffuseur fait la loi et fait le championnat.
Mais là, ça vous pose pas de problème puisque c'est le cas.
Canal impose un championnat à 18 clubs, ça vous pose pas de problème?
C'est pas ça. C'est que Canal peut très bien dire, je vais pas citer de nom de club pour pas fâcher les gens, mais Canal peut très bien dire, il y a des matchs qui nous intéressent moins que d'autres. C'est vrai.
C'est pour élever
entre guillemets. Où on va les diffuser, c'est ce que disait David, on va les sous-licencier, mais si globalement le produit est de meilleure qualité avec plus d'affiches, regardez ce qui se passe à l'échelle européenne, même l'UEFA est en train de réfléchir à une refonte pour qu'il n'y ait que des matchs prestigieux.
C'est justement aussi le risque, c'est la brèche dans laquelle on pourrait s'engouffrer, parce qu'on sait très bien que les instances, notamment européennes de l'UEFA, poussent vers ce genre de format pour libérer des dates. Et pour pouvoir mettre en place une sorte de super championnat.
Comment ça, pour libérer les dates? Avec la nouvelle formule que propose l'UEFA Ligue des Champions,
je vous rappelle,
5 ou 6 matchs de plus.
Je vous rappelle quand même que la Coupe... Non, mais justement, on a supprimé la Coupe de la Ligue. Vous faites passer le championnat de 20 à 18 ou à 16, vous libérez des dates.
Donc on privilégie 3 clubs français qui participeront à la Ligue des Champions et on oublie le reste du
football français. Un super championnat européen.
On n'a pas tellement le choix.
On oublie ça, ça ruisselle également.
Bon, les amis, 18h16, je rappelle quand même le meilleur moyen de se tenir informé des rencontres de football, c'est de les suivre à la radio.
Ah bah on n'a pas fait mieux.
Dès ce soir et bien évidemment demain soir également, avec notamment, mais pas seulement, tout au long de la saison, Marseille-Paris-Saint-Germain. Une page de publicité, les informations de 19h, la suite d'en fait le match après 19h, avec cette question à la veille d'OM, PSG justement. Est-il encore possible de parler football? À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Yeah. La suite d'On fait le match en compagnie toujours de Philippe Sansfourche, responsable football, rubrique foot de RTL, Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe, Gilles Verlez, le célèbre procureur d'On refait le match, et David Aiello, toujours fidèle au poste, toujours fidèle à On fait le match, bien évidemment. Après avoir parlé des droits TV qui nous ont occupés depuis des semaines et des semaines avec cette question, le groupe Canal a-t-il ou va-t-il sauver le football français? On va parler désormais de Marseille et du Paris Saint-Germain, mais on va revenir en compagnie de Baptiste Durieux sur vos réponses, vos messages, vos commentaires, vos réactions sur le compte @RTLFoot en compagnie de Baptiste Durieux. Les réseaux sociaux en feu, Baptiste.
Toujours beaucoup de réactions, évidemment. Message de William, c'est un sauvetage pour mieux sauter après cette crise. Si elle n'est pas suivie d'une grosse remise en question de la part des clubs et de la Ligue, ne servira à rien. Au-delà du nouvel appel d'offres, il faut surtout un nouvel appel à l'examen de conscience, nous dit William. Et message de Zachary, la base de tout, c'est le public, c'est les téléspectateurs. Pour les prochains mois, comme pour l'année prochaine et les autres, on veut un seul diffuseur, que ce soit clair, limpide, simple, efficace et économique.
Merci Baptiste. Alors, Marseille-Paris-Saint-Germain, la question un peu générique, est-il encore possible de parler football, messieurs? Car évidemment, il s'en est produit des choses. Depuis d'ailleurs, samedi dernier, on fait le match où ça fut une spéciale quasiment incident à la commanderie. Depuis la démission ou la mise à pied, on ne sait pas trop, vous allez éclairer les auditeurs, d'André Villas-Boas. Puis, des rumeurs fantaisistes ou pas de vente du club marseillais. Puis, des rumeurs moins fantaisistes, car ouvertement déclarées de la part de la mairie de Marseille, de la mise en vente du stade Vélodrome. Les supporters, évidemment, sont perdus. D'ailleurs, Hugo Hamelin me communique les toutes dernières informations en provenance de la commanderie. Hugo Hamelin, correspondant RTL Foot, notamment à Marseille. Sachez qu'une vingtaine de responsables, cet après-midi, d'associations de supporters ont été reçus par les joueurs. Ils ont pu parler tout à fait tranquillement avec l'ensemble de l'effectif, ou presque. Il y avait en tous les cas notamment Thauvin, Rongier et Mandanda. Certains de ces supporters ou représentants de ces supporters se sont dit, et j'ouvre les guillemets, donc ils ont employé la formule regretter quelques fatigués qui aient dépassé les bornes lors de la manifestation de samedi dernier. La discussion a été virile, selon Hugo Hamelin, entre joueurs et supporters, mais utile. Cela dit, les joueurs ont dit que c'était pas parce qu'il y avait ce type d'échange important et intéressant qu'ils allaient mettre 5 buts au Paris Saint-Germain. À noter que
ils sont prudents, c'est bien.
À noter que le président Hérault n'était pas présent et que les supporters, en fin de conversation et d'échange, ont quand même dit qu'ils allaient continuer de se mobiliser dans les prochaines semaines pour réclamer sa démission. Fin de citation.
C'est une bonne nouvelle tout ça. Ça veut dire qu'il y a un dialogue
à court terme.
Oui,
on laisse passer le classique.
Le dialogue est renoué. Il y a un élément moteur quand même au niveau des joueurs. Je voudrais lui rendre hommage, c'est Mandanda, qui cherche en permanence le lien social, qui cherche à être une sorte de, dans un dépassement de fonction de son rôle de joueur et de joueur emblématique, de cadre, il cherche en permanence à réconcilier ou retisser du lien entre toutes les composantes du club. Si tout le monde était comme lui, ça irait beaucoup mieux à Marseille.
On va parler des supporters de l'Olympique de Marseille, de cette passion, on ne peut pas dire le contraire, passion parfois exacerbée, et là visiblement, les associations mettent un peu le pied sur la pédale de frein. Peut-on encore parler de football? Question générique, David Aiello.
C'est compliqué, effectivement, compte tenu du rappel que vous avez fait. Peut-être aussi que c'est révélateur, quelque part, que comme il n'y a plus vraiment, si on met un petit peu sous cloche le match de septembre dernier, puisqu'on rappelle que l'équipe parisienne était décimée, en particulier par la Covid.
Et que Marseille avait gagné 1-0,
avec ces circonstances-là. Mais si on prend le bilan, si on élargit au bilan des maintenant presque 10 dernières années, effectivement, sportivement, et on a du mal à raccourcir les choses. Donc, je pense que ça vient de là. Après, moi, je suis toujours un petit peu interpellé quand même par ce que vous avez décrit, cette scène avec les supporters, parce que est-ce que c'est vraiment leur place? Enfin, loin de moi l'idée de dire que les supporters sont là uniquement pour supporter.
Question cruciale, l'appartenance des supporters à un club de football.
Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, là, qu'est-ce qu'ils leur reprochent, en fait? Donc, c'est les 4 défaites, ok, mais donc au-delà de ça, donc, vous n'avez pas mouillé le maillot. Enfin, je trouve que tout ça est toujours tellement subjectif. Que c'est, pour moi, c'est assez difficile à... je veux dire, ce juste milieu, pour moi, ce qu'ont fait ces supporters de la commanderie la semaine dernière, c'est enfoncer encore plus ce groupe. Je ne vois pas comment, s'ils se sont imaginés qu'en allant les menacer physiquement, ils allaient enfin réagir et se dire « Ah bah là, on a compris, maintenant on va mieux jouer au football », c'est une hérésie totale.
Non mais bon, on ne va pas revenir sur les incidents de la dernière fois, de la
non,
semaine
mais
dernière.
Non mais du coup, ça dépend.
Le départ, la démission, la mise à pied d'André Villas-Boas, c'est pas notre Philippe Sanfourche.
On est quand même largement au-delà du caractère sportif, c'est-à-dire que ce que dénonçait, et en le faisant d'une manière totalement plus que contestable, inqualifiable, ce que dénonçaient les supporters à ce moment-là, c'est un environnement global où le club ne s'y retrouve plus dans l'essence même de ce qu'est l'Olympique de Marseille, et notamment beaucoup plus en direction de la direction que des joueurs. Après, on est aussi dans une période très particulière où il ne pourra pas y avoir demain, par définition, des banderoles ou des chants, une manifestation populaire de ce qu'est le ressenti de la ville de Marseille par rapport à son club. Donc il fallait bien trouver politiquement une manière de reconstruire un échange entre les supporters et leur club à la veille du match. Je pense que tout ça est très
entouré. Vous êtes en train de nous dire que les supporters font une espèce de burn-out et ont cédé à une certaine forme de dépression.
Comme ils le disent. Très bien, tout le monde est fatigué en ce moment. Il y a beaucoup de fatigués dans les deux camps.
Sébastien Tarrago.
Non, écoutez.
Pourquoi ?
Non, mais ça me fatigue moi aussi ces histoires avec les supporters. Mais je comprends parce que on voit à quel point le public manque au football. Et c'est le seul bon côté de cette crise que nous traversons, c'est que effectivement, moi-même, j'ai parfois peut-être dévalorisé l'importance des supporters dans ce jeu, mais en revanche tout ce qui dépasse le cadre du terrain, le cadre du stade et tout, moi ça me fatigue qu'on donne trop d'importance à ces gens. J'ai du mal même à les comprendre, parce que on a le droit d'être, c'est bien d'être passionné, c'est formidable d'avoir des passions, mais à un moment il faut aussi savoir rester à sa place.
La République, la dictature des supporters.
Ouais, moi je suis fatigué par ça.
Attention, bon, quand il y a les supporters, voilà. Là c'est souvent les ultras. Enfin, ultras et supporters, c'est pas toujours la même chose. Dans un stade, il y a 40 000 supporters.
Les ultras sont également des supporters.
Oui, mais tous les supporters sont pas ultras.
Et puis au sein des ultras, il y a des franges plus ou moins. Bon, tout ça
c'est d'accord.
Alors moi ça me fatigue pas, et je réponds clairement à la question que vous avez posée en filigrane. Les clubs, Marseille appartient aux supporters. Marseille appartient à ses supporters. Et pourquoi Marseille appartient à ses supporters ? Parce que vous voyez que la commanderie appartient aux supporters, on peut le regretter, mais quand ils veulent l'envahir, ils l'envahissent. Parce que vous voyez que le président héros, peut-être qu'il va rester quelques semaines ou quelques mois, mais en fait, il est déjà parti, de facto. Parce que les supporters ne veulent plus de lui, donc il ne préside plus rien.
Mais ça fait longtemps qu'ils veulent plus de lui, Gilles.
Ouais, oui, mais il peut pas partir sous la pression quand même, mais il va partir.
On va évoquer les rumeurs.
Les patrons des clubs, ce sont les supporters. Et j'en suis très content, parce que les clubs, historiquement, appartiennent aux supporters.
C'est quand même compliqué de dire que les patrons des clubs sont les supporters.
Moi, c'est ce que je dis. Les supporters ont le droit.
C'est dangereux. Hein. C'est dangereux, Gilles.
Mais j'ai toujours dit ça. Les supporters ont le droit de s'approprier un club. Oui, sans eux, il n'y a pas de club en France.
D'accord, mais l'appropriation à Barcelone ou à Madrid avec les socios, ça, c'est une appropriation.
Ils ont été au bout de la logique. Il faut faire pareil en France.
Mais c'est pas la même chose, c'est structuré.
Du coup, ils sont structurellement propriétaires. Mais chez nous, nous le sommes sentimentalement et presque économiquement et politiquement aussi.
Je salue l'arrivée d'Émile Leclerc sur l'antenne de RTL, directeur des études pour Odoxa. Bonsoir Émile.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Car le baromètre Odoxa RTL Winamax porte cette semaine justement sur l'Olympique de Marseille, avec plusieurs questions très intéressantes et des réponses encore plus intéressantes, avec notamment, pour commencer, si vous me le permettez Émile, le regard justement porté sur les débordements des supporters de l'OM, et pour les Français et pour les amateurs de football.
Exactement, et puis il y a eu un regard important qui a été donné, c'est celui de Bernard Tapie qui a dit texto, ces événements sont compréhensibles mais inacceptables. Quand on interroge les Français, les amateurs de football, ils rejoignent pas Bernard Tapie. Ils sont d'accord avec lui sur une chose, c'est inacceptable. 82% des Français et 84% des amateurs de football ont été choqués par ces images. En revanche, le côté compréhensible, ils sont pas d'accord. 72% des Français nous le disent et 62% des amateurs de football ne comprennent pas en fait la colère des supporters, qu'elle puisse aller à un niveau niveau tel.
Voilà.
On le voit dans sur des sujets politiques, hein, il peut y avoir des manifestations très violentes en France, déjà c'est pas accepté. Alors c'est encore moins compréhensible pour les Français que des supporters mettent un bazar pas possible dans un centre d'entraînement
pour se casser, pour menacer ou pour bien sûr. Deuxième thématique, Émile, le principal, là, c'est intéressant, principal responsable de la crise actuelle à l'OM, et vous le mettez au singulier pourtant, hein. Alors vous avez sondé les Français et les amateurs de foot, entre la direction, entre les supporters et les joueurs, qui est le responsable?
Les joueurs et même l'entraîneur, et effectivement en fait les Français et les amateurs de football, ils ont beau dire que les supporters avaient vraiment tort de faire ça, mais ils renvoient les supporters et la direction dos à dos, puisque pour eux c'est même la direction de peu, de 35% devant les supporters à 32%, qui est la principale responsable de la crise actuelle à l'Olympique de Marseille. Chez les amateurs de football, l'écart est encore plus net. Hein. 43% d'entre eux considèrent que c'est la direction et 27% les supporters. Les joueurs arrivent en troisième à 17 et 19% chez les Français et amateurs de football. Et enfin, l'entraîneur, qui est souvent le fusible qu'on fait sauter, et là d'ailleurs qui a sauté lui-même, est cité par seulement 8% des Français et 10% des amateurs de football. Donc la direction est vraiment pointée du doigt par les Français dans cette crise.
Messieurs, je vous sens impatient, vous pourrez commenter dans un instant les résultats de ce baromètre Doxa. Troisième question importante, la démission d'André Villas-Boas, qui s'est transformée en mise à pied selon la direction. Comment réagissent les Français et les supporters de football?
Oui, une démission avec fracas. Et bien pour les Français, dans ce contexte très compliqué, ils considèrent qu'André Villas-Boas a eu raison. 68% des Français et 77% des amateurs de football, en fait, à sa place, ils auraient sans doute fait la même chose et seraient partis de ce contexte trop difficile pour eux.
Voilà, messieurs. Quand même, c'est parce qu'on va parler tout à l'heure de Marseille et du Paris Saint-Germain, le classique. Préférence entre le PSG et l'OM, ça a bougé depuis les dernières études, l'ensemble des Français, les amateurs de foot.
Carton rouge.
C'est ça, on
carton
ça
rouge, place au direct. Le direct, carton rouge, 14 minutes de jeu, Lyon-Strasbourg, Sébastien Mallet.
Premier tournant dans cette rencontre, carton rouge pour un Strasbourgeois, Adrien Thomasson. Une faute au milieu du terrain, faute anodine sur Thiago Mendes, mais grosse faute, grosse semelle du milieu de terrain Strasbourgeois. Carton jaune d'abord sorti par l'arbitre de la rencontre, Amaury Delerue, et deuxième jaune dans la foulée. Alors on ne sait pas si c'est pour contestation ou pour cette faute, cette semelle sur le tibia de Thiago Mendes. Toujours est-il que les hommes de Thierry Lorès sont réduits à 10 après un quart d'heure de jeu. Carton rouge donc pour Adrien Thomasson, alors que les Strasbourgeois allaient de mieux en mieux dans cette partie. Ils avaient bien réagi après un début de match compliqué. Ça fait toujours 0-0 en tout cas entre Lyon et Strasbourg, mais les Alsaciens sont réduits à 10 contre 11.
Merci Sébastien Mallaire. Préférence donc entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Études Odoxa, RTL Winamax. Directeur des études, Émile Leclerc.
Oui, on disait que depuis 2015, on mesure cette préférence. On demande aux Français tout simplement qui ils préfèrent entre le PSG et l'OM. Alors, c'est pas forcément tous des supporters. Pendant longtemps, entre octobre 2015 et octobre 2018, c'était assez serré entre les deux clubs. Et on voit que l'OM décroche ces dernières années. Et là, aujourd'hui, on a un écart qui est quand même important. 52% des Français nous disent préférer le PSG et 38% préfèrent l'OM. Chez les amateurs de football, c'est aussi net, 55 versus 42. Et on leur a demandé aussi dans le détail, entre les deux clubs, qui a par exemple le plus marqué l'histoire du football français. Là, c'est encore l'OM qui est désigné par les Français et les amateurs de football. À les meilleurs supporters, c'est aussi encore l'OM. Par contre, on voit que les événements ont eu vraiment un impact important, puisqu'il y a une baisse de 10 points en quelques mois seulement. Le stade s'est assez partagé, et un élément qui a aussi beaucoup bougé suite aux événements, c'est l'image donnée à sa ville. Là, il y a moins 12 points pour l'Olympique de Marseille, et 54% des Français considèrent que c'est le PSG qui donne la meilleure image de sa ville. Enfin, sur l'équipe, et ça c'est assez logique, le PSG domine largement l'OM selon les Français. Ils ont une meilleure équipe, ils pratiquent un jeu plus spectaculaire.
Merci Émile Leclerc. D'autres informations à retrouver dans la matinale de 9h demain matin, bien sûr, sur l'antenne de RTL. Un commentaire, messieurs. Alors, des questions et des réponses très intéressantes, concernant notamment, de mon point de vue, les responsabilités.
Oui, je suis d'accord, parce que vous l'avez d'ailleurs souligné, apparemment la question a été posée, qui est le responsable, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Et moi, justement, ça me parle pas tellement, parce que pour moi, dans une situation comme ça, il y a plusieurs responsables. Pointer la direction, les joueurs, comme si c'était des compartiments isolés et séparés. Que les joueurs, par exemple, soient en troisième position, aujourd'hui, cette crise, c'est aussi une crise de résultats. Il y a cette série catastrophique pour l'OM. Évidemment qu'il y a quelque chose de plus profond entre la direction et le peuple marseillais qui se comprennent pas. Mais s'il n'y avait pas eu notamment cette série de 4 défaites. La communication d'un club, on le dit souvent, c'est le terrain, c'est une réalité. S'il n'y avait pas eu cette crise-là, on n'en serait pas là non plus. Donc les joueurs, on ne peut pas non plus, ils sont pas, que l'OM, je crois, est aujourd'hui de tête 9e du classement de Ligue 1, avec l'effectif qu'ils ont, c'est évidemment une hérésie. Et je veux dire, les joueurs ne peuvent pas être non plus exempts de tout reproche là-dedans. Donc pour moi, il n'y a pas un responsable principal, la direction bien sûr, l'entraîneur dans une certaine mesure et les joueurs.
Je trouve qu'on voit quand même beaucoup dans le sondage pointer, et c'est à mon avis très juste, la responsabilité du coup négative des supporters marseillais dans les exactions, parce qu'autant je disais j'adore que les supporters soient rois, autant les incidents de la commanderie je les condamne totalement, et on voit que là les gens trouvent que ces supporters marseillais ont dégradé l'image de la ville très fortement quand même, que du coup l'image qu'ils avaient des supporters marseillais est altérée. Donc voilà, pour quelques isolés qui ont détruit un centre, on voit que toute une ville, toute une région, tout un club est impacté.
Gilles,
donc
c'est phénoménal ça. Est-ce que ça Bernard Tapie, vous comprenez son, comment, c'est quoi sa formule?
Je condamne totalement les incidents.
Parce que c'est quand même
les incidents, non. Les supporters sont rois, mais faut pas faire ça. Voilà.
Non mais moi je suis choqué par tout ce qui se passe, et je trouve que c'est encore une fois, pardonnez-moi, révélateur du monde dans lequel on vit. L'Olympique de Marseille, à mon avis, est très mal géré. Ok, mais depuis longtemps. Il se trouve quand même qu'il y a encore quelques semaines, il disputait la Ligue des Champions. D'accord ? Donc ça veut dire que le championnat avait été quand même de bonne qualité avec monsieur André Villas-Boas.
Et l'ouverture du score, messieurs, à Lyon. L'ouverture du score lyonnaise après 19 minutes de jeu. Ce ballon perdu au milieu du terrain par les Strasbourgeois, sanctionné immédiatement par le capitaine Memphis Depay. Son 12e but cette saison. Il vient libérer les hommes de Rudy Garcia. Quand on le rappelle, les Strasbourgeois sont réduits à 10 contre 11. Après l'expulsion il y a quelques minutes d'Adrien Thomasson. Et il n'a pas fallu longtemps aux Lyonnais pour en profiter. Ce ballon perdu au milieu du terrain. Et Memphis Depay qui s'en va fixer Kawashima pour ouvrir le score d'une frappe croisée. Ça fait 1-0 pour Lyon après 19 minutes de jeu.
Dit, c'est un peu plus d'espace, mais la défense sans aucune opposition. Hein. Ouais, là, sans c'est... aucune opposition. Sans marquage et à la limite de la surface de réparation. Merci Sébastien Malher.
Il y a encore 3 ou 4 mois, tout allait relativement bien à l'Olympique de Marseille, d'accord ?
Moi, je voudrais juste... En tout cas.
Pardon ?
Sportivement.
Oui,
sportivement. Parce qu'il y avait quand même des tensions déjà avec la direction.
Je parle sportivement. Okay. Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose aux gens et aux formidables supporters que décrit Gilles. C'est que à la fin, il n'y en a qu'un qui gagne dans ce sport. Hein. Un seul. Donc perdre, si vous ne l'acceptez pas, de temps en temps, alors il faut faire autre chose que de supporter.
Mais David,
aider
Marseille football. Est 9e. C'est-à-dire que Marseille pourrait quand même...
Mais ils ont eu... Mais et alors ?
En Ligue des Champions, le parcours a été modeste,
qui a pu être surpris par le parcours de l'OM en Ligue des Champions ? Ils ne sont pas invités, tout le monde le sait. Mais je dis juste que tout le monde était content. Tout le monde était content, il y a encore quelques mois, de ce que, sportivement, de ce que réalisait l'équipe de André Villas-Boas. Je redis juste une chose, encore une fois, on a le droit dans ce sport de perdre. Et j'en reparlerai tout à l'heure avec Zinedine Zidane. Sinon, il ne faut pas... Les gens qui condamnent sur 3 mois, ils n'aiment pas le sport.
Et c'est pour ça que la crise, elle n'est pas sportive.
Mais si vous voulez qu'on dise que c'est un drame absolu que l'Olympique de Marseille soit 9e du championnat, alors allons sur les barricades, Christian. Allons-y, tous ensemble.
Ne vous énervez pas, mais entre...
Sébastien,
entre...
Pourtant, Dieu sait qu'il est mauvais, mais enfin, casser, un peu de raison.
Entre casser du matériel à la commanderie et intimider les joueurs, ce qui est totalement inexcusable, effectivement. Et assumer une place de 9e de l'Olympique de Marseille, ça reste du sport, bien évidemment.
Mais il y a 2 mois, ils étaient combien?
Ben, il y a un mois et demi, il y a 2 mois. Ben oui, mais ici,
vous n'acceptez pas l'idée.
Non, mais
vous n'acceptez pas l'idée qu'on puisse perdre.
La crise sportive, ça a été la petite allumette craquée sur un brasier, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui,
mais moi, j'aurais aimé vous entendre dire cela quand Marseille s'est qualifié pour la Ligue des Champions.
C'est encore une fois.
Parce que moi, je pensais que quand ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions, je pensais que ce club était très mal géré. J'ai pas changé d'avis. Mais pour autant.
Mais les Marseillais le savaient déjà.
Je pense qu'il faut qu'on prenne un tout petit peu de hauteur sur ce qui se passe quand même. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible.
Mais au-delà des résultats sportifs, c'est la gestion également du président Jacques-Henri Hérault qui
remet en cause. C'était déjà le cas il y a 6 mois.
C'est sa façon de communiquer par rapport au. Moi, je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
C'est l'histoire des Marseillais.
C'est-à-dire comment, effectivement, on peut expliquer que des Marseillais qui travailleraient au service du club marseillais travailleraient moins que des gens qui ne sont pas Marseillais.
Ces gens-là ont du mépris. C'est tout, monsieur Hérault, il a du mépris pour les gens, c'est pour ça qu'il s'exprime comme cela.
Du mépris, je ne sais pas si c'est du mépris.
Prenez les précautions que vous voulez, moi je vous le dis.
Sébastien, vous êtes quand même le seul au monde.
Il fait partie d'une classe comme ça qui méprise les gens, c'est tout.
Vous êtes le seul au monde à trouver que tout va bien à Marseille, je vous signale. Vous nous décrivez un club formidable, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de président, il y a des supporters qui vont tout casser.
Je sais que nous avons pris de l'âge depuis que nous nous connaissons, mais je ne pensais pas que vous aviez des problèmes d'oreille. Je dis,
vous venez dire tout est merveilleux à Marseille.
Je dis que pour ma part, depuis des mois, voire des années,
tout est merveilleux à Marseille.
Tout est une catastrophe dans la direction de l'Olympique de Marseille.
Je ne veux pas croire que Jacques-Henri Hérault est du mépris. Je ne veux pas croire également.
Vous écoutez mal,
je ne veux pas croire également que ce soit le pire président de l'Olympique de Marseille.
Il y a qui pire?
Il y en a eu des mauvais. Il y en a eu des mauvais.
Non, mais Jacques-Henri Hérault, il est sans doute meilleur dans les dîners en ville que pour gérer un club. Et je le constate à travers le rayonnement qu'il peut avoir et les protections dont il bénéficie.
Il y a des rumeurs qui circulent. Les rumeurs circulent, c'est la vente de l'Olympique de Marseille. Alors, fantaisiste ou pas, on n'a aucune information. En tout cas, l'information qu'on a, c'est Franck McCourt, l'actionnaire,
qui dément.
Je rappelle quand même que Margarita Louis-Dreyfus avait démenti lors de son la vente du club.
Toutes les ventes de clubs sont semaine
après, Franck McCourt annonçait qu'il allait racheter et deux mois après, c'était signé. Donc, les démentis sont par valeur mais néanmoins
il y a un élément que vous avez démenti et j'accorde le même démenti, c'est que Emmanuel Macron aura été à propos de cette opération du rachat du club par une puissance d'Arabie Saoudite, Emmanuel Macron aurait été consulté, participé aux discussions.
Rigoureusement démenti
bidon
par l'Élysée.
Bidon total.
En même temps, il va pas s'en vanter si c'est.
Non, alors là, j'ai les mêmes informations que Christian.
D'accord, mais l'information, c'est qu'eux démentent, c'est que l'Élysée démente. Mais est-ce que vous voyez Emmanuel Macron confirmé?
De la façon dont ils ont démenti off, je peux vous dire qu'ils prennent des risques. Parce que off, je sais comment ils ont démenti cette histoire, donc ils prendraient des risques.
Le message, c'est Emmanuel Macron a franchement d'autres choses à faire que de s'occuper de
ça. Ça paraît crédible quand même.
Non, mais je dis pas le contraire.
Mais un jour ou l'autre, l'Olympique de Marseille sera vendu. Le tout est de savoir si, parce que au gré de conversations, elles existent d'ailleurs, entre des dirigeants de l'Arabie Saoudite et des dirigeants de l'Olympique de Marseille, qui existent depuis un an déjà. Il suffit en grattant une allumette de se dire qu'à l'instant T, juste avant Marseille, Paris Saint-Germain, et alors que la direction est en difficulté actuellement, si c'est la réalité, c'est la question
que vous posez. C'est une vraie question parce que ça a été souligné dans le communiqué du groupe Franck McCourt qui évoque procédure de déstabilisation du club. Moi, je vais vous dire, ça fait des semaines que je reçois tout un tas d'informations plus ou moins loufoques, mais qui sont difficilement vérifiables. Donc, évidemment, on les propage pas sur cette vente. Mais quelque part, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'autant d'où ça vient effectivement? Je pense qu'il y a une question quand même. À qui profiterait le crime? Pourquoi est-ce qu'on chercherait à déstabiliser l'Olympique de Marseille?
On a connu ça il y a quelques mois avec Boudjelal.
Oui, mais justement, mais c'est la même chose.
Il y a eu des repreneurs iraniens. Mais il y a eu des partenaires de Boudjelal.
À qui profite le crime? C'est ça la question. Pourquoi? Pourquoi on aurait ces rumeurs là?
Et ce club est valorisé à combien?
De toute façon, il est valorisé déjà à ce que Franck McCourt a investi dans le club. C'est-à-dire que là, il a mis à peu près 300-350 millions d'euros dans le club. On n'imagine pas. Vous savez, il a acheté les Dodgers à Los Angeles pour 400 millions, il a revendu 2 milliards. Donc, c'est son idée
qu'il se dépêche quand même.
À moins de 400 millions, il ne vendra pas de toute façon.
On est d'accord.
À moins de 400 millions,
il vendra. Il est là pour faire une bascule.
J'entends ce que vous dites, mais à un moment, il va encore falloir qu'il mette au pot s'il veut revaloriser son produit. Donc à un moment, c'est la course à l'échalote. Comment ça va se finir? Il va mettre 1 milliard?
Si ce n'est qu'il y a un élément qui a changé cette semaine, et Christian l'a évoqué en ouverture, c'est que la mairie s'est positionnée sur la vente du stade. Et un club
qui était
une coquille vide, parce qu'il n'y avait aucun actif.
Benoît Payan, maire de Marseille, qui fait non pas une annonce mais qui entretient la rumeur d'une vente ou d'une volonté de club.
Sur
un live Facebook, je veux dire,
j'espère quand même qu'il est conscient. Alors je sais bien que
ils étaient dans l'opposition, ils avaient le même discours.
Au moins, il est cohérent, c'est bien.
Ne vendons pas aux marchands du temple le stade Vélodrome. N'en faisons pas un projet immobilier.
Si le stade devenait la propriété du club, ce que je disais, c'est que le club ne valait rien parce que son actif joueur, il était nul. Aujourd'hui, le club possède son centre d'entraînement, la commanderie, et potentiellement pourrait être propriétaire du stade. Quand vous êtes investisseur, c'est quand même pas la même chose.
Mais oui, il appartient aux Marseillais, figurez-vous. Le stade alors coûte cher. Alors qu'il est oui. Mais il appartient aux Marseillais.
Alors qu'il est oui, mais
c'est quelque chose de sacré qu'il ne faut pas toucher.
Mais il se trouve que le propriétaire veut le vendre.
Pardon ?
Bah, il se trouve que le propriétaire, qui est la mairie de Marseille, veut le vendre.
Mais donc, alors attention, là, il faudra quand même qu'on nous passe sur le corps, au moins Christian et moi, pour savoir à qui on le vend, pourquoi on le vend, et alors après, on va quoi ? On va le désosser pour alors, faire des alors, hôtels et des appartements
il faut, aussi que le maire de Marseille fasse un référendum à chaque décision qu'il va prendre. Là, j'ai du mal à vous suivre.
Selon le maire de Marseille, le stade Vélodrome coûterait 15 millions d'euros par an aux contribuables.
Bon. Oui, bon, après, ça, c'est des comptes.
En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a été élu sur ce programme. Vous êtes d'accord, puisque vous me dites.
Oui, sur ce programme, mais pas sur la
liste. Non, mais d'accord, mais il n'a pas changé d'avis au moment d'arriver à la tête de la mairie de Marseille.
C'est clair.
Donc, les gens qui l'ont lu le savent.
Sur un Facebook live, bon.
Ah, ça vous choque, ça.
Ah oui, complètement.
Après, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont sur la table en ce moment. Le sujet du stade. Pour faire le lien aussi avec le dossier précédent sur les supporters, je peux vous dire qu'en ce moment, que ce soit au niveau préfecture, voire même au-dessus, les dirigeants marseillais, un petit peu comme à l'époque de la crise avec les supporters au PSG ou Colonie Capitale, avaient profité de cette histoire pour mettre en place le plan Leprou qui précédait la vente au Qatar. Ça mouline beaucoup sur l'avenir des supporters au Vélodrome.
Il y aurait un alignement des planètes actuellement. Donc. On tourne une page de publicité et derrière la publicité, on va parler un peu quand même du classique Marseille-Paris-Saint-Germain et de Zinedine Zidane, puisque j'ai l'impression que Sébastien Tarrago est chaud, très chaud même sur le sujet. Et puis vos messages, bien sûr, sur le compte @RTLFoot en compagnie de Baptiste Durieux. A tout de suite.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
La suite, on fait le match dans un instant, mais le score a encore évolué à Lyon. Lyon-Strasbourg, Sébastien Malher.
Mais de deux, messieurs, 2-0 désormais pour l'Olympique Lyonnais, avec ce but à la demi-heure de jeu de Karl Toko et Cambi, magnifiquement servi dans la surface de réparation par Thiago Mendes. Karl Toko et Cambi qui se signalent à nouveau là, sur cette frappe bien captée en deux temps par Kawashima. Il y avait eu une nouvelle alerte quelques minutes auparavant, un poteau de Memphis Depay sur coup franc. Et donc ça fait 2-0 désormais pour les Lyonnais qui ont la main mise sur cette rencontre. La soirée risque d'être longue, très très longue pour
et
les
hommes. Peut-être lourde,
de
Sébastien.
Thierry, ouais, la sanction pourrait être lourde, d'autant qu'on le rappelle, les Strasbourgeois sont réduits à 10 depuis la 14e. Et ce carton rouge pour Adrien Thomasson. 2-0 donc pour Lyon face à Strasbourg après 32 minutes de jeu.
Merci Sébastien. La suite évidemment de cette première période dans On refait le match. La seconde période à partir de 20h dans RTL Foot avec toute l'équipe d'Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Abou et Quentin Vasselin. Sans oublier bien sûr le débrief de Lorient-Reims, match de 17h. Lorient a battu Reims par 1-0. Sans oublier également l'intégralité à partir de 21h du grand match de la soirée qui opposera le Racing Club de Lens au Stade Rennais. Demain, sur RTL, Marseille-Paris-Saint-Germain. Si on parlait un peu football avec l'information de fin de journée, c'est Neymar qui est dans le groupe, Philippe Sanfourche. Mais Neymar,
finalement, oui, puisqu'il n'avait pas participé à l'entraînement
qui est malade,
ce matin,
qui est malade.
De gastro-entérite. Hein, le dernier Français à avoir une gastro-entérite.
Post-anniversaire. C'est la gastro-post-anniversaire.
Il se trouve que c'est au lendemain de son anniversaire. Donc les mauvaises langues commencent à peut-être.
Ah, c'était hier son anniversaire.
Eh oui,
c'est récent. Il a posté quelque chose sur les réseaux sociaux.
Non,
il y a eu une petite vidéo très discrète où on le voit faire une chasse au trésor dans son château, enfin dans son grand domicile. Oui, non, à l'intérieur. Donc, et ensuite une fête en famille.
Ouais. Voilà. L'essentiel, c'est qu'il soit tombé amoureux du Paris Saint-Germain. Ça, c'est bien.
Oui, alors bon,
est-ce que ça serait ironique?
Donc il est dans le groupe, donc il sera là, mais il planera peut-être jusqu'à la dernière minute le suspense sur sa présence ou non. Il va falloir s'y habituer parce que Mauricio Pochettino est assez habitué de ce genre de petits jeux avec la
presse. Est-ce que tu veux dire qu'il y aura un peu d'intox potentiellement? Tu sens de l'intox?
Il y a des. Je me souviens par exemple que Thomas Tuchel, lui, s'en foutait complètement. Ouais. Il venait pour son équipe, mais enfin, il faisait mystère d'aucun souci. Il y avait les blessés, il y avait ceux qui étaient dispo, et on n'en parlait plus. Mauricio Pochettino, déjà, il est arrivé. Un des premiers trucs qu'il a excédé, c'est le fait qu'il y ait des fuites dans la presse, machin. Donc, il a commencé à brouiller les pistes tout de suite. Je me souviens notamment d'une composition où il fait une annonce. Non, il fait une annonce à la causerie à 17h aux joueurs dans laquelle Kylian Mbappé n'est pas dans l'équipe. Il le prend à part, il lui dit je te rassure tout de suite, t'es dans l'équipe.
C'était pour voir.
Mais
quoi.
Pour l'instant, je ne donne pas et je vais voir si ça sort et je vais voir comment, à quelle heure. Et... Parce qu'en fait, il fait des espèces de pistes comme ça.
Bon, c'est pas le seul à s'être intéressé au taupe à l'intérieur du PSG.
Ah, mais c'est rapide, Gilles.
Beaucoup ont échoué, ouais.
C'est rapide cette fois.
Ouais.
Mais elle y est encore, je crois, la taupe.
M'inquiète. Ouais.
Bon, Neymar, donc, dans le groupe, mais Neymar,
gastro. Oui, ceci dit, s'il a vraiment une gastro,
si c'est une gastro, c'est embêtant. Si c'est juste une gueule de bois, ça aura pas
servi. Une gastro, ça peut se régler en 24 heures.
Mais si c'est réglé en 24 heures, t'es quand même diminué. Je veux dire,
une bonne hydratation.
Quelques bouteilles
d'eau. C'est fait très fort.
Une bonne hydratation.
Donc, très contagieux, la gastro l'est. On peut supposer qu'il serait pas forcément dans le groupe. Donc, voilà, à partir du moment où il est dans le groupe, c'est qu'on estime qu'il est susceptible d'être titulaire.
Il y a pas mal de revenants, il y a pas mal de joueurs qui ne se sont pas entraînés ces dernières 24 heures.
Il y a Milik qui est pas
forfait,
c'est quand même un gros coup dur pour l'Olympique de Marseille.
Oui.
Ils ont quand même beaucoup investi sur ce garçon. Bon, ses premiers pas étaient plutôt encourageant, on va dire. Je pense que c'est quand même plutôt ennuyeux pour l'Olympique de Marseille qu'il soit pas là.
On est d'accord pour dire que le Paris Saint-Germain part largement favori.
Pas comme ça largement.
Je crains un gros score pour le PSG.
C'est difficile à dire quand même, c'est qu'on peut pas dire que Paris soit flamboyant depuis quelques semaines. Donc sur le papier oui, mais de ce qu'on voit. Je vais plutôt.
Sébastien Tarago, de toute façon, l'important n'est pas toujours de gagner. Donc on verra.
Ce qui est certain, c'est que le PSG.
Même la défaite est belle selon lui.
Le PSG a encore gagné cette semaine. Alors le score est sans appel. Ok, 3-0 face à Nîmes, lanterne rouge du championnat. Mais en concédant 14 tirs. 14 tirs, avec des ballons parfois perdus à 70 mètres des buts. C'est-à-dire que le problème qui existait sous Thomas Tuchel n'a absolument pas évolué. Le Paris Saint-Germain, dès qu'il n'a pas la possession, dès qu'il n'est pas en train, dans les 5,50 m du but adverse, il perd le ballon, il est immédiatement en danger. Et Keylor Navas n'est toujours pas de retour.
Ça peut être quand même un
élément qui peut avoir son importance.
Et Monsieur Larguet, parlez-moi de Monsieur Larguet. J'adore le ton de l'entraîneur intérimaire de l'Olympique de Marseille.
Ouais, très posé.
Il est posé et tout. C'est reposant.
Il détonne dans le panorama.
C'est sûr. Mais ça fait peut-être du bien même quelque part.
Et d'ailleurs, quelle solution maintenant? Qui va venir?
Ça.
Qui va venir? Vous avez des informations?
Non, mais c'est vrai que de manière générale.
Alors qu'il est.
De manière générale, débarquer dans un club en plein milieu de saison, moi ce que je crains pour l'OM, c'est que ça soit quelqu'un qui soit un petit peu contraint de prendre le club. Dans le sens. Pour l'instant, j'ai pas de nom à vous donner, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit que tous les grands noms qui ont circulé ont refusé parce qu'ils veulent pas débarquer à l'instant T dans l'OM et qui plus est en cours de saison. Donc j'ai peur qu'ils se retrouvent avec même pas un second choix, mais un dixième choix d'un entraîneur qui se dit waouh, l'OM pense à moi, j'y vais.
Pas d'indiscrétion.
Les entraîneurs à projet avec une construction programmatique qui veulent créer une identité de jeu, effectivement ils n'arrivent pas dans un club en crise ou presque en ruine, avec des joueurs qui veulent partir, pas d'argent pour recruter, ils sont prisonniers de contrats ou d'un état de fait. Donc effectivement, je suis assez d'accord avec David, vous risquez d'avoir un entraîneur opportuniste. Alors à ce moment-là, pourquoi ne pas conserver celui qui se dit au service du club pour quelques matchs?
Pourquoi pas? Franchement, parce que quand on entend les noms qui sortent.
Mais quels sont les noms?
Non, mais. Sampaoli, c'est pas mal.
Voilà,
ça c'est pas mal.
Vous connaissez les salaires de ces gens-là?
Donc, ça arrive, c'était énorme.
Ça n'a pas de sens. À mon avis, ça n'a pas de sens de faire ça en cours de saison comme ça. Mais bon.
Et il veut rester, il est entraîneur actuellement au Brésil, il veut y rester jusqu'à la fin du mois, je crois.
Jusqu'à la fin du championnat parce que son club est troisième.
Ce serait un profil formidable, nous dit-on, Sampaoli, qui est le disciple ou le de
Bielsa.
Le disciple, j'ai pas vu beaucoup jouer les équipes de Sampaoli.
C'est ce que j'ai.
Il
y a beaucoup de disciples, mais
il y a beaucoup de disciples. Après, quand vous regardez jouer les équipes, franchement, Sampaoli n'est jamais resté bien longtemps.
Un an maximum à chaque fois.
À Séville, ça s'est pas bien passé. En équipe nationale, ça s'est pas bien passé. Alors, c'est pas simple.
Il a plutôt réussi à Séville, non? Non?
C'était pas mal.
Mais Séville marche plutôt bien par ailleurs.
C'est tellement bien passé qu'il est resté.
Mais ils font, je crois, quatrième du championnat quand on connaît le niveau de la Liga.
Oui, mais c'est le niveau de Séville.
Oui, d'accord. Il n'a pas dégradé.
Après, ça reste un entraîneur qui débarquerait donc début mars, qui connaît pas du tout la Ligue 1, qui connaît pas les joueurs.
Quand même un profil, et là on va pas parler 4-4-2 terrain match. Le côté argentin, un peu grande gueule, disciple de Bielsa, les tatouages partout. Ça peut être quand même en termes d'image et par rapport à l'ambiance générale.
À court terme, ça peut le faire.
Oui, mais Philippe.
Ça fait partie.
Vous parlez d'un entraîneur, parlez-moi du jeu, de la tactique et pas
le
jeu.
On en a parlé.
Je ne sais plus qui autour de cette table.
Ça a très bien fonctionné à l'époque du Chili où ça a été son fait d'arme principal.
Parce qu'il avait hérité de quelque chose qui était construit, abouti. En fait,
c'est,
Non, le projet était enfin, abouti,
après, quand
lancé,
tu arrives dans une compétition, il faut aussi aller au bout de ce que tu proposes. Et
ah, mais avec Sampdoria, on racontera toujours des histoires, et puis il y aura peut-être fusion au départ.
Ben oui, mais avec Marseille, c'est important.
Pas de souci.
Avec Marseille, c'est important.
On m'a dit la même chose avec Raymond Domenech quand il est arrivé à Nantes. C'est formidable des histoires.
En même temps, Philippe, il y a assez refusé. Il y en a plein qui refusent, et les gens ne veulent pas venir dans un club dans cet état-là. Alors attention, après, là, il y a quand même pour une situation d'intérimaire ou intermédiaire, il y a quand même un grand match qui se profile. Imaginons que notre ami Larguet... Imaginons que, contrairement à vos prévisions, Marseille ne soit pas étrié par le PSG, fasse un bon match. Réconciliation avec les supporters, il peut finir la saison, très franchement.
Oui, et si on mettait Zinedine Zidane, tiens.
Bah oui, d'accord.
Là, il faut que le club soit racheté, effectivement.
On revient en arrière dans l'histoire.
C'est ma transition. Est-ce qu'on a le droit de critiquer Zinedine Zidane?
On n'a jamais eu le droit.
Vous avez entendu cette conférence de presse de Zidane, et en espagnol, que je ne comprends pas, mais en français, où il a fait un copier-coller, ensuite à une question d'ailleurs de Mathias Valton, notre correspondant à Madrid, je n'avais jamais vu Zinedine Zidane entrer dans une telle colère avec quelques phrases clés. Hein. Dès qu'on perd ou qu'on fait match nul, je dois partir. Je ne suis pas content, je suis même très énervé. Je pense que je ne mérite pas un tel traitement. Je mérite un peu plus de respect. Rappelez-vous, c'est nous quand même qui avons remporté la Liga la saison dernière.
Question.
Et avec des gestes, hein.
Oui, oui. Non, mais il était très énervé, c'est sûr, et c'est rare. Mais c'est bien, au moins,
a-t-on le droit de critiquer Zidane d'émotion.
Alors, la réponse, est-ce qu'on a le droit globalement en France? Non. Ça on le sait bien, et ça peut coûter cher parfois.
Ah, mais. Ça veut dire? Il y a des pressions?
Zinedine Zidane, tu sais très bien qu'il a beaucoup, de relais,
tout le monde sait.
Mais enfin, c'est pas le seul quand même. C'est pas quelque chose d'incroyable dans le système médiatique français notamment. Donc voilà, il a des relais. C'est évidemment que si tu critiques Zinedine Zidane, c'est pas toujours simple. Mais là encore, il faut être sérieux.
C'est-à-dire?
Le type a gagné 3 Ligues des Champions
consécutives.
Il a.
Ça s'est jamais vu.
Non, mais il a redonner, avec ses joueurs évidemment, le titre de champion d'Espagne au printemps dernier. Enfin, quand il y a eu le restart. Ok. Champion d'Espagne. Il y a quelques rivaux en Espagne, m'a-t-on dit. Ok. Là, il est deuxième du championnat espagnol. Ça joue mal, hein. Ça joue pas bien à Madrid, mais ça joue pas bien à Barcelone. C'est vraiment une saison très particulière.
Victoire cet après-midi à Huesca, 2-1.
Oui, avec un but de Varane notamment.
Deux
buts de Varane, pardon. Donc, ils sont deuxième du championnat. Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et toutes les semaines, ou presque, on dit qu'il va être viré. Alors, je peux le comprendre, et son agacement. C'est insensé. Alors, si la presse en fait autant en Espagne, c'est aussi parce qu'il y a des courants au sein du Real Madrid qui ont des doutes sur Zinedine Zidane. Ils n'inventent pas les choses, les journalistes espagnols.
Et pas forcément des courants de la presse, d'ailleurs. Il y a aussi des courants à l'intérieur même du club. Et Zidane se sert de la presse, mais c'est un message envoyé interne.
C'est ce que je viens de vous dire.
Pardon.
À chaque... on le sait d'ailleurs, il a failli être licencié à plusieurs reprises. Notamment avant un match en Ligue des Champions en Grèce, je crois. C'était à deux doigts. Mais encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Zinedine Zidane, qu'on ait des doutes ou pas sur sa qualité tactique, par exemple. Je pense qu'on peut remettre en cause éventuellement son impact tactique dans une équipe. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Licencier Zinedine Zidane ou imaginer de licencier Zinedine Zidane alors qu'il est, c'est insensé.
Donc la presse espagnole n'est pas sérieuse.
C'est surtout ce que
c'est le Real Madrid et les courants dont vous parlez.
Mais la presse aussi, ce sur quoi il insistait dans cette intervention, c'est de dire si vous voulez me virer après. Faisons les comptes à la fin du championnat.
Quand même.
Pour l'instant, laissez-nous terminer ce championnat dont on est les tenants.
Ce championnat qu'ils avaient remporté, en plus, il avait mal débuté aussi.
Mais bien
entendu. C'est bien la preuve que sur la durée.
Qu'est-ce qui nous dit que effectivement, il joue un huitième de finale contre l'Atalanta Bergame. Je pense que c'est quand même à la portée du Real Madrid. Qu'est-ce qui nous dit que il va pas peut-être inscrire son nom une quatrième fois au palmarès de la Ligue des Champions? Et là, ils auront l'air malins quand même encore une fois.
Attends, la presse espagnole l'avait envoyé jubilé en 2006. Hein, souvenez-vous, lors du France-Espagne.
Oui, c'est généralement ça lui fait bien. Quand il s'énerve.
Mais c'est finalement aussi la chronique d'un d'un cycle qui se termine et qu'on annonce, c'est-à-dire qu'en interne, il se fait effectivement déstabiliser. C'est vrai que le jeu du Real Madrid n'est pas à son firmament actuellement. C'est vrai aussi
mais
que l'effectivité...
Quelle équipe en Europe voilà,
exactement. Non, mais attendez, j'essaie de mettre des éléments sur la table pour expliquer une telle situation.
Quelle équipe est bonne aujourd'hui?
J'entends.
PSG, Manchester City.
Ça fait trois semaines, par séquence. Auparavant, avant Noël, ils étaient...
L'effectif est quand même assez vieillissant.
Ils n'ont pas recruté depuis trois ans, c'est pas de sa faute.
C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, en revanche. Ils ont dépensé 355 millions à l'été 2019. Ça, c'est pas vrai.
Il s'est planté.
Il s'est planté. 355 millions.
Mais Zidane s'est planté sur un recrutement majeur.
Qu'est-ce que j'ai dit?
C'est hasard.
Non, trois ans.
Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
C'est un fiasco monumental.
Alors d'abord, je vais répondre à votre question.
Non, mais vous n'êtes pas d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord. Il arrive avec...
Ou du fiasco de hasard.
Mais hasard, c'est pas du tout de sa faute. Il s'est pas du tout trompé. C'est qu'hasard ne s'adapte pas à la vie espagnole et à des blessures musculaires à répétition. C'est pas de la faute de Zidane, ça.
Les blessures musculaires. Sur hasard, tout le monde savait que Eden Hazard n'est pas quelqu'un de très sérieux.
Quand tu fais en permanence 7 kilos trop, c'est normal que les blessures
s'accumulent. Chacun son tour. L'hygiène, donc
non, tout le monde sait que Eden Hazard n'est pas forcément très sérieux. Il vieillit un peu, mine de rien, il doit avoir 29 ans maintenant. Et en plus de cela, c'est un garçon qui disait toujours « Oh là là, moi marquer des buts, être décisif, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est bien jouer au football et tout. » Quand tu vas au Real Madrid, c'est pas comme ça que ça se passe.
On lui a refusé Pogba. Donc moi, à votre question, peut-on critiquer Zidane? Ma réponse est claire, interdiction. Je ne suis pas pour la censure médiatique. Mais tous ceux qui critiquent
pour Zidane.
Zidane et Didier Deschamps, pour moi, ils vont contre les intérêts de la France. Donc je les baillonne. C'est insensé de critiquer Zidane. Zidane, il a tout fait. Il a tout fait, il a tout gagné. Ces hommes se sont dévoués à la France. Et quand vous dites Sébastien, vous sous-entendez que Zidane pourrait faire pression grâce à ses réseaux sur des gens qu'il critiquerait? Je dément catégoriquement.
C'est faux.
Jamais Zidane n'a fait ça. Jamais.
La pression, non, je parle pas de la pression. Mais ne vivons pas factuellement dans un monde de bisounours. Si Zidane, tout Zidane qu'il est critiqué par la presse, c'est qu'il y a des relais en interne qui ne veulent plus de Zidane la saison prochaine. On se sert de la presse.
De sourde manœuvre.
Zidane se sert de la presse pour envoyer des messages également aux dirigeants en leur disant laissez-moi travailler, il y a encore des objectifs sportifs, de toutes les façons, je quitterai le Real Madrid, je vous l'annonce, à la fin de la saison. Mi-temps à Lyon. Il l'a pas dit.
Vous parlez très bien de Zidane.
Mi-temps à Lyon, Sébastien Malher.
Oui, il n'y a pas match ici à Lyon. L'OL mène 2-0 après les 45 premières minutes, ouverture du score à la 20e de Memphis Depay et Karl Toko Ekambi a doublé la mise. 10 minutes plus tard, il y a eu match seulement pendant un quart d'heure jusqu'à l'expulsion d'Adrien Thomasson au quart d'heure de jeu pour une faute grossière sur Thiago Mendes. Double carton jaune adressé par Amaury Delerue. Et derrière, Strasbourg a vécu une première mi-temps galère. 2-0 donc pour Lyon. Ça va être long, très long pour les hommes de Thierry Lhermitte.
Rendez-vous évidemment pour cette seconde période à partir de 20h, Sébastien, dans RTL Foot. Et je vous annonce la suite des opérations. Zinedine Zidane qui va se mettre au vert, qui va récupérer, qui a besoin de se ressourcer et qui prendra l'équipe de France après la Coupe du Monde disputée.
Ça, c'est possible. Mais parce que vous pensez que Didier Deschamps va partir après la Coupe du Monde au Qatar?
Derrière le Qatar, je le pense.
Il partira sur deux titres mondiaux, auréolé de gloire.
Président de la 3.
Je pense qu'il partira pas, moi.
Ah bon?
S'il gagne, non? Tant qu'il pourra rester, il restera.
Non, parce que Deschamps ne part pas. Parce qu'il prendra le risque, éventuellement, avec un nouveau cycle, de partir ensuite sur un échec.
Il le prend déjà. Bah écoutez, il aurait pu être dans ce cas-là, selon votre raisonnement, il aurait pu partir après la Coupe du Monde 2018.
Non, la Coupe du Monde, il y a une échéance championnat d'Europe,
il y a
une
échéance championnat d'Europe.
Il va être champion d'Europe.
Les plans de carrière, ça vous va pas.
D'accord, mais vous êtes mort. Moi je vous dis que Didier Deschamps, tant qu'il peut rester à ce poste-là, il restera.
Allez, on prend les paris. Qu'après la Coupe du Monde au Qatar, et quel que soit le résultat.
Quel que soit le résultat,
ce sera Zidane à la place de Deschamps. On prend les paris?
Mais non,
c'est une info ou c'est un pari?
Non, c'est pas grave.
Ça n'a pas de sens. C'est dans deux ans.
Ne me cherchez pas parce que la Ligue 2 arrive.
Moi, je vous dis juste une chose, en revanche, c'est que Zinedine Zidane, il attendait en 2018 que la place soit libre pour la prendre. Ça, oui. Et ça explique aussi pourquoi il était libre à ce moment-là. Il se trouve que ça s'est passé comme ça s'est passé. La place n'était plus libre, il est retourné à Madrid.
C'est Noël Le Graët qui ne voulait pas Zidane?
Oui. écoutez,
il était champion du monde.
Non, mais la fois d'avant,
c'était dur de le licencier.
Je pense
au moment où Deschamps est arrivé, Zidane était allé voir le Gret.
Il était cher, Zidane. Avec son équipe, il était cher pour la fédération.
Et ça peut aussi être une vraie source de motivation pour Didier Deschamps pour rester le plus longtemps possible.
C'est pas faux.
Moi, j'y crois fort. Mais attention, attention, Gilles, vous critiquez là.
Juste pour terminer sur cet épisode Zidane, je trouve que, et je rejoins un petit peu Seb là-dessus, ça dit quelque chose de l'air du temps, c'est-à-dire que les entraîneurs ne peuvent plus rester dans la durée. Donc là, ça fait, il y a eu son départ et son retour, mais voilà, au bout de 2-3 ans, même si eux-mêmes ne sont pas usés, il y a quelque chose dans l'air du temps qui dit ça suffit. On cherche, quand même on parle de Zidane qui, comme tu l'as dit, a un palmarès de joueurs et d'entraîneurs absolument incroyable, et ben au bout de 3-4 défaites, il faut qu'on aille chercher, etc., qu'on remette ses compétences en doute.
Mais même pas 3-4 défaites,
mais même pas. Et moi, effectivement, je comprends que lui, vu le travail, l'investissement que ça représente d'être entraîneur, il soit absolument
Guardiola et Klopp, ils restent des années dans leur club.
Cette nervosité de Zidane, c'est quand même une première.
C'est la première fois.
Et c'est peut-être révélateur de quelque chose quand même, parce qu'il a déjà été confronté à ces nombreuses rumeurs. Il l'avait toujours pris avec beaucoup de distance.
Tout à fait.
Et beaucoup d'élégance d'ailleurs aussi en conférence de presse.
Exact.
Et là, j'espère pour lui que ce n'est pas signe d'une fatigue extrême. Voilà, cette nervosité.
Une lassitude. Si Zidane veut participer en fait le match, bien sûr, il sera le bienvenu. On se déplace tous à Madrid pour.
Attention, on retient la proposition.
Avec Gilles, bien sûr.
Messieurs, les réseaux sociaux, les auditeurs, évidemment, toujours nombreux à réagir à vos avis, expertise. Et à vos débats, bien évidemment. Le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux, n'est-ce pas?
Tout à fait. D'abord sur Zidane, message de Samy, qui nous dit on peut critiquer Zidane, mais on peut aussi avoir confiance dans le meilleur entraîneur du monde sur ces dernières années et surtout être dans la mesure. Totalement d'accord avec son coup de gueule, ce climat est insupportable. Et puis de Madrid à Marseille, il n'y a qu'un pas. On parle aussi beaucoup des entraîneurs de l'OM avec nos auditeurs. D'abord sur celui qui est là pour l'intérim, message d'Alexis Nasser Larguier, le prénom du président parisien et un nom de famille qui parle tout seul. Le pauvre, bon courage et force à lui. Et message d'Edouard, ils sont tous disciples de Bielsa, mais aucun ne fait jouer ses équipes comme lui. Arrêtons les emballements perpétuels parce que tatouage et sang sud-américain. On veut quelqu'un de fiable, on veut Christophe Galtier, mais évidemment le nouveau roi Longoria ne sait même pas qui c'est.
Oh, c'est sévère.
Non, mais il voudrait un étranger, c'est vrai, Longoria, pour asseoir son pouvoir. Il préfère un entraîneur étranger, ça c'est vrai. Il l'a dit, il cherche
son réseau,
à l'étranger.
Son carnet d'adresse est plus à l'étranger.
Petit message pour son pouvoir aussi, je pense. Ancien confrère Olivier de Los Bues. Excellent, on fait le match où j'apprends des choses sur Zinedine Zidane. Et ça me rappelle des balades madrilènes avec David Aiello. Entraîner le Real.
Parce qu'Olivier s'est occupé, il connaît très très bien Zinedine, puisqu'il s'est occupé de son site internet pendant des années. Donc il est bien pour en parler.
Et on l'embrasse, Olivier. 19h51, les 9 dernière minute dont refait le match, les tirs au but. Les tirs au but, je rappelle, des sujets d'actualité qui n'ont pas été transmis tout au long
attention
de la cette journée aux intéressés, et avec la traditionnelle désormais question Ligue 2.
C'est là où les faibles s'effondrent.
On refait le match sur RTL avec Christian Olivier.
Alors les tirs au but, je vous le rappelle, il faut démarrer évidemment après le coup de sifflet. Donc parfois l'arbitre peut faire patienter, donc après le coup de sifflet. Et la fameuse question Ligue 2, car oui, tous les samedis, j'ai bien l'intention de vous faire aimer cette Ligue 2, de vous intéresser
pour
à cette Ligue 2.
Je ne sais pas si vous y êtes pris de la meilleure manière.
Mais alors, ce championnat, je vous assure, est sous-estimé, il ne coûte pas grand-chose. Et
Il est valorisé à zéro.
Tous les week-ends, il y a des matchs absolument extraordinaires. Moi, je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 équipes, au moins du haut de tableau, qui pourraient tenir entre la 7e et 12e place du championnat de France de Ligue 1.
C'est bien la preuve. Très clairement. Réduire à 16 ans.
Très clairement. Alors, la semaine dernière.
Mais il y en a peut-être 7 de Ligue 1 qui pourraient très bien figurer en Ligue 2.
Absolument, et même en National. La semaine dernière, c'était une question facile, pour vous intéresser à la Ligue 2, pour voir si vous suivez, c'était de savoir quel était le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2. Évidemment, Michael Le Guillon, c'est roi. Alors, je ne veux pas vous faire de peine, je ne veux pas vous piéger. Je vous assure que je ne veux pas vous piéger. Donc, on va rester sur une question extrêmement basique. Puisque vous avez été incapable de me dire quel était le meilleur buteur du championnat de France. Quel est le deuxième buteur du championnat de France de Ligue 2?
C'est un Clermontois.
Oui, d'accord, mais qui est-ce?
Bayo.
Ah,
voilà. Mohamed Bayo.
Sauf que vous n'avez pas entendu le coup de sifflet.
Oh, ah, là, c'est je me suis précipité bêtement. Oui.
Mohamed Bayo. Mohamed, donc c'était, c'est, ça compte pas.
Oh, vous avez bon.
Mohamed Bayo. Moi, je l'avais sous les yeux.
Il y a 13 buts cette saison, quand même. Hein. 13 buts cette saison, quand même, pour Bayo.
Vous avez. Vous avez
non, bah, rien du tout.
Je dis ça tête.
La semaine prochaine, Philippe, on coupe tous les ordinateurs. Mohamed Bayo. Quel est son âge?
Oh, il a à peu près.
Quel est son âge? Sa taille, son poids?
Il est en 98.
Il est stock. 1m88, 22 ans.
Voilà.
Et il a été formé où cela? Bah, Clermont.
Après, petit passage à Dunkerque.
Merci Google, ferme sur flanche. Non, mais blague à part. Vraiment, il y a de bons matchs le football en Ligue 2.
Oui, ouais, mais le problème, Christian, pour revenir un petit peu sérieux, c'est qu'il y a également les championnats étrangers qui sont extrêmement intéressants et qui sont souvent en collision en termes de programmation avec la Ligue 2. Donc, aujourd'hui, quand on aime le foot, tout est télévisé. Donc, il y a la Ligue 1, il y a tous les championnats étrangers et la Ligue 2. Donc, il faut faire
le
choix.
C'est vrai. Deuxième tir au but. On revient à la Ligue 1. Tiens, à la mi-temps, c'est Lyon qui mène face à Montpellier, c'est cela, 2-0. Rudy Garcia.
Strasbourg,
2-0. Ouais. Rudy Garcia, en vue d'une éventuelle possible prolongation à l'Olympique lyonnais, bonne ou mauvaise décision?
Mauvaise décision.
Pourquoi?
Je pense qu'il donne son maximum. C'est un très bon entraîneur pour le Lyon actuel. Mais si Lyon veut entamer une nouvelle ère, ce sera pour moi sans lui. Voilà.
Vous êtes d'accord sur ce constat, messieurs? Sébastien Tarago, Philippe Sanfourche.
Moi, j'étais agréablement surpris. Je trouve que, ne serait-ce qu'en termes de communication, il a mis de l'eau dans son vin, il s'est adapté au club. Donc moi, j'étais agréablement surpris par sa capacité d'adaptation. Il fait une bonne saison qui est particulière pour Lyon parce qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc bon, est-ce que c'est toujours pareil, c'est se séparer d'un entraîneur qui réussit? Pourquoi pas? Mais pour prendre qui à la place, ça c'est une vraie question.
Je pense quand même qu'il ne faudrait pas lui donner trop de pouvoir.
Ça, on est d'accord. Mais à Lyon, c'est quand même un écueil.
Si prolonger, par exemple, de 2 ans ou voire 3, parce que lui, s'il prolonge, il vaudra le plus possible. Je pense que c'est dangereux.
Bah, après, il est arrivé dans des circonstances aussi où, par définition, Juninho, qui venait d'arriver, était fragilisé par le cataclysme de début de règne avec le départ de Silvinho. Il a eu encore un passage difficile, en fait, pour monter en puissance, parce qu'il y avait tellement d'attentes et le poids du personnage, son caractère aussi un peu particulier, sa personnalité un petit peu renfermée et explosive a eu du mal à s'exprimer. Le recrutement et pour l'instant la réussite qui est l'arrivée de Paqueta change beaucoup le regard de la direction et des Lyonnais en général sur Juninho.
Ah bah oui. Donc Juninho, personne n'en voulait.
Bien sûr.
À part Juninho.
Et on va rester sur l'actualité lyonnaise. Vous êtes prêts? Jean-Michel Aulas qui dit rêver d'un retour de Benzema. On y croit, on n'y croit pas?
On y croit. Moi, j'ai plutôt tendance à y croire parce que c'est son ancien agent, qui est plutôt son agent de l'ombre, on pourrait dire, qui l'a déclaré. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est très proche de Karim Benzema. Moi, j'ai plutôt vu ça comme un signal, une petite alerte pour dire attention, tiens, sachez que Karim Benzema.
Ça me semble compliqué. Non, mais il a un salaire et des défis sportifs extraordinaires au Real Madrid, alors qu'il est. Tout va plutôt bien pour lui. Je vois pas pourquoi le Real Madrid se séparerait de lui alors qu'il est.
Bah, peut-être parce que si Zidane s'en va, on sait qu'ils ont une grande proximité. Peut-être qu'il peut se dire. Ça a été dit d'ailleurs. S'il doit revenir à Lyon, et Jean-Michel Aulas l'a dit, il faut qu'il revienne maintenant et pas en fin de carrière quand il aura 36 ans. Donc je pense que lui, il a aussi ça en tête.
Une dernière minute. Luis Fernandez, président du comité de soutien de Frédéric Thirier, l'un des 3 candidats à l'élection à la présidence de la Fédération française de football. Soutien décisif, oui ou non?
Non, non. Mais je comprends pas pourquoi les gens se présentent contre Noël Le Graët qui est déjà élu. C'est ridicule. Qu'est-ce que va faire Louise dans cette galère? Louise, Michel Aulas fera 1,5% et Frédéric Thiriez, que j'aime beaucoup, fera 8% et donc ça laisse
91,5%.
Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de se présenter contre Noël Le Graët. Je sais pas ce que Louise va faire dans cette galère.
Non, mais je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi sur. Oui, bien sûr que Noël Le Graët est déjà élu. D'ailleurs, il l'a dit dans un lapsus.
C'est terminé, David. Mais...
Oh, ok, bah, je peux continuer ou.
Non, continue
chez toi.
Parce qu'il y a
l'Anse-Rennes à 21h. Ça compte tirer au but raté, ça.
Je n'ai rien préparé sur l'Anse-Rennes.
Suspension d'un mois.
Je n'ai rien préparé sur l'Anse-Rennes ce soir à suivre sur l'antenne de RTL. Simplement, je pose la question avec un coup de sifflet rapide. Est-ce que vous allez suivre ce match sur l'antenne de RTL? Il n'y a pas de coup de sifflet. Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr. Dans la voiture.
Avec un grand regret quand même qu'on n'ait pas un stade Félix Bollaert.
Ah bah oui, le vélo demain.
Dans 5 ans, ça sera plein. Dans 5 ans.
Allez, ça va être dur. C'est terminé. Merci messieurs. Merci Sébastien Tarrago.
Merci à vous.
Merci, merci Gilles Verdez.
Merci à vous.
David Aiello, merci. Merci Philippe Sanfourche.
Merci Christian.
Le foot, 20h, 23h avec donc Lens-Rennes et puis évidemment demain avec notamment Marseille-Paris-Saint-Germain. On va se régaler, en tout cas on espère. Merci à vous tous de votre fidélité, merci à Damien Béchiot pour la réalisation de cette émission, merci à Baptiste Durieux pour tous les messages sur le compte @RTL Foot et surtout merci à vous tous de votre fidélité. Dans un instant, RTL Foot. Ciao, ciao.